cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 14 décembre, l'an 2000, à Saint-Jodard.
J'ai terminé hier en faisant ce parallélisme que je crois très important pour nous entre sincérité et vérité et amour fusionnel et amour d'amitié. Je crois que très souvent, on ne comprend pas ce que c'est que l'amour d'amitié, la philia. Il y a quelques années, il y a eu un livre qui était intitulé « Amour et amitié ». Alors, amour, c'était Eros. Amitié, c'était camarade. C'était l'utilité, la jouissance. C'est ce qu'ont la plupart du temps les gens. L'amitié, c'est la jouissance. Ils n'ont plus du tout le sens de la filia. Je crois que ça, c'est très grave. Parce qu'alors, on tombe dans du Descartes. Et au fond, Descartes, c'est nécessairement un volontarisme, une efficacité, et tout amour est passionnel, Eros. Ça conduit à mettre le primat ou de la domination du pouvoir ou de l'efficacité. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pratiquement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Nous devons comprendre l'erreur de cela et essayer de retrouver la dignité de l'homme. Et la dignité de l'homme, elle se fait par la recherche de la vérité et par l'amour d'amitié. C'est les deux manières pour nous de retrouver une philanthropie, une anthropologie digne et vraie. Alors, je regarde cette comparaison entre les deux. Nous avions vu que la confusion de entelekeia, la vérité formelle, et la vérité ontologique, qui permet de comprendre ce que c'est que la vérité, une qualité de mon intelligence, qui est toute tendue vers le respect de l'autre. Le respect de ce qui existe, de ce qui n'est pas moi, et par le fait même le dépassement de ce qui est. Si l'entelekeia, c'est-à-dire ce que je pense, est considéré comme l'absolu, je peux vous dire que c'est vrai, puisque c'est ça que je pense. C'est ça que ça veut dire, on ne le dit pas, hein. Mais au fond, c'est ça que ça veut dire. Voilà ce que je pense. Mon opinion, c'est ça. Et mon opinion est la vérité. Et je suis sincère en vous disant ce que je pense. C'est très bien de dire ce que vous pensez, mais ce que vous pensez, qui m'intéresse et ce qui vous, si ce que vous pensez est la vérité, alors ça m'intéresse. Mais si ce que vous pensez est uniquement votre opinion, je la respecte. Je vous respecte. Mais je ne peux pas m'y arrêter. Je suis obligé de chercher la vérité. C'est très net, hein? Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Si on ne l'est pas, cherchons à l'être. N'est-ce pas? Et c'est l'occasion. Hein? La philosophie est faite pour que nous essayions de nous corriger radicalement. Hein? Parce que le péché originel, les conséquences du péché originel ne touchent pas notre intelligence, mais touche la recherche de la vérité. Parce qu'on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est très humiliant de chercher la vérité. Puisque j'ai toujours reconnaître que l'autre me mesure. L'être, la réalité, elle est le bien de mon intelligence. Et mon opinion, c'est quelque chose qui me permet d'attendre, de chercher plus, d'aller plus loin. Alors, au point de vue de l'amour, c'est la même chose. L'amour que j'ai pour mon ami, je le connais, je le sais, et cet amour me réchauffe, hein. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'aimer mon ami. Mais en réalité, c'est mon ami que j'aime. Si c'est moi qui aime, c'est très vrai. Mais mon amour n'est vrai que lorsqu'il tend à regarder l'autre. Et que l'autre est ce qui permet à mon amour d'exister. Si l'autre n'existait pas, je n'aurais pas cet amour pour lui. Et donc je respecte l'autre parce qu'il est gardien de mon amour. Il est celui qui est source de mon amour. C'est l'ami. Si je ne regarde que l'amour que j'ai pour lui, si je ne regarde que ça, et si je me réjouis de ça, il est merveilleux, mon ami, je l'aime, ça me fait du bien de l'aimer. Et que Entelekaya prend tout pour être sûr que mon ami ne m'échappe pas, je domine sur lui. Je le tiens et je veux pas qu'il m'échappe. Je veux qu'il soit tout le temps avec moi. Peu importe ce qu'on fait, ça n'a aucune importance. Il est là avec moi. Vous voyez qu'à ce moment-là, je n'aime plus mon ami. C'est moi que j'aime en lui. Quand c'est moi que j'aime en lui, pratiquement, je considère que mon amour, c'est ma finalité. Et je me donne à moi-même cette dignité que je n'ai pas de me finaliser. Mon amour me finalise. Et quand cet amour n'est pas là, je ne sais plus où je vais. Mais c'est mon amour qui m'étouffe, alors, qui m'empêche de progresser. Exactement comme la sincérité m'empêche d'atteindre la vérité. parce que c'est mon opinion qui est la mesure de tout. Mon opinion remplace l'être. Alors c'est beaucoup plus net, comme toujours, du côté de l'intelligence. Du côté de l'amour, c'est jamais très précis. C'est pour ça qu'on glisse très facilement, si on n'est pas très éveillé, si on n'a pas très fort le respect de l'autre. Vous voyez, l'intelligence qui respecte l'autre, qui atteint l'autre, dans un jugement et un jugement intellectuel. Le respect de l'autre qui me permet de l'aimer, qui me permet de me dépasser. Et je me dépasse en aimant l'autre. Tandis que, en l'aimant, je ne me dépasse pas. Je peux très bien rester dans mon amour et considérer que mon amour, c'est tout. C'est une distinction capitale, celle-là. Parce que elle confond l'amour et l'exister, l'être. Du fait que j'aime, je considère que c'est la réalité. Et donc, l'intentionnalité de l'amour, et l'amour est toujours intentionnel, se confond avec la réalité. Au fond, vous voyez, sans le savoir, je me fais comme Dieu. Je deviens un petit Dieu, puisque l'autre, c'est moi. Et l'autre n'a d'intérêt que quand je me retrouve en lui. Et la seule chose que je trouve, c'est moi en lui. Alors que ça devrait être l'inverse. Mon amour me permettrait de découvrir l'autre tel qu'il est, dans son altérité, dans ce qu'il a d'original, dans ce qu'il a d'unique. Et je serai relatif à lui. Vous voyez, l'amour est extatique. Alors, si l'amour est extatique, si le propre de l'amour est extatique, le jour où je confonds mon amour avec mon ami, je considère que le principal, c'est mon amour, il n'y a plus rien d'extatique. Je me gonfle moi-même et je me regarde gonflé. Et je ne vois l'autre qu'à travers mon amour. Et je ne le vois que dans la mesure où il est conforme à mon amour. Et à ce moment-là, l'amour aveugle. Et vous voyez, c'est la passion qui l'emporte. Le propre de la passion, parce que la passion se prend du côté matériel, c'est l'aspect matériel de l'amour, la passion. Accapare. La causalité matérielle accapare toujours. À cause de mon corps, je suis dans un lieu. À cause de mon corps, je suis distinct de mon voisin. Mon existence, elle est dans mon corps, elle me localise, elle me montre que je suis quelqu'un de distinct des autres. La causalité matérielle accapare. Alors, cette causalité matérielle, elle se retrouve dans l'amour. Alors, vous voyez le duel terrible, puisque l'amour me fait vivre de la finalité. Et voilà que la matière, l'aspect matériel disons ça, l'aspect matériel de l'amour, parce qu'il y en a toujours, hein, je ne peux pas aimer comme un pur esprit. Vous aimez toujours avec votre corps, c'est bien évident, avec votre sensibilité. Alors, c'est l'aspect matériel qui l'emporte et qui, à la place de permettre à l'amour d'être extatique, sorti de soi, à l'encontre de l'autre, et de vivre de l'autre, et non plus de moi, c'est moi dans l'autre. Je détruis l'autre pour moi, et je me détruis moi-même, imaginativement, parce qu'en réalité, je n'aime plus. Je n'aime plus d'amour spirituel. J'aime passionnément. Et la passion fait que, quand elle domine de cette manière-là, elle est le grand obstacle à l'amour spirituel. Et c'est la passion qui domine. Et la passion est toujours un accaparement. La jalousie vient de la passion. S'il n'y avait pas la passion, on serait heureux que l'autre puisse aimer. Et parce qu'il aime un autre, il s'agrandit. Il devient plus lui-même. Parce qu'il découvre sa finalité. Dans la jalousie, je ne veux pas ça. Je veux qu'il soit tout à moi. Et je l'accapare. Causalité matérielle. Vous voyez, être lucide dans la passion éros. La passion de concupiscence. La passion d'amour. La passion de l'amour est la plupart du temps la passion qui domine en nous. Une passion fondamentale, hein, puisque l'irascible provient toujours du concupiscible. C'est la passion première, c'est le concupiscible. L'irascible naît à partir de là pour avoir un bien difficile qu'on conquiert. Et c'est un bien difficile qu'on veut conquérir. Mais c'est un bien. Donc il y a toujours eu en premier un amour de concupiscence. Et il est évident que la passion fondamentale en chacun d'entre nous, c'est le concupiscible. C'est-à-dire cet amour à l'égard d'un bien sensible. C'est ce bien sensible qu'on veut accaparer. Et on ramène tout au bien sensible qu'on veut accaparer. On ne regarde plus les personnes, mais on regarde le bien sensible qu'on veut accaparer pour soi, qu'on veut prendre pour soi. D'où jalousie d'un autre qui risque de prendre le même morceau, la même personne du côté sensible. Alors à ce moment-là, ce sera la lutte. Vous voyez telle personne tendeur, et vous voyez bien moins. Et vous voyez bien, c'est visible. Vous voyez l'aspect quantitatif, il domine tout de suite. Avec la passion, l'aspect quantitatif revient au galop. Alors qu'au point de vue spirituel, l'aspect quantitatif est dépassé. Il faut être très attentif à l'aspect quantitatif. Les gens qui ne cherchent que la quantité restent dans la passion. Vous voyez, et c'est pour ça qu'au point de vue politique, le suffrage universel est terrible. parce qu'on ne cherche que la quantité. Et donc ça excite les passions. Et ça fait vivre des passions. Cicéron avait très bien vu ça. Alors on regarde plus la qualité. Peu importe, c'est la quantité. Quelqu'un qui a une situation importante, qui a une personnalité forte, qui voit les choses vraiment, a le même pouvoir qu'un imbécile qui se laisse acheter. On lui offre de l'argent, il votera autrement qu'il aurait voté personnellement. Il votera. Ça lui est égal. Il a l'argent. Oui. La vente des esclaves. C'est vraiment ça. On les achète. C'est terrible. Ça détraque tout. Quand la quantité passe avant la qualité. Et alors si... C'est le domaine passionnel qu'on favorise. Il faut être très attentif à ça, que les passions nous donnent un sens aigu de la quantité. L'amour véritable qui respecte l'altérité de l'ami et qui respecte c'est l'ami qui me finalise, me donne un sens aigu de la qualité. Il est mon ami. Vous voyez, c'est intéressant de retrouver qualité et quantité dans le domaine même de l'amour. Alors que l'amour devrait être au-dessus, rien n'est plus qualitatif que l'amour. Ça, c'est sûr. L'amour me lie à ma finalité. Le côté affectif me lie à ma finalité, l'amour comme tel. Donc, c'est la qualité suprême qui permet de faire ce lien entre le point de vue qualitatif, unique, le point de vue passionnel qui est quantitatif. Donc, notons bien que l'amour d'amitié, mon amour d'amitié, reste toujours entelekeia. Et je n'atteins l'energeia que dans l'ami en tant qu'il existe. Vous voyez, ce passage de l'affectif à ce qui est. L'amour demande d'exister, parce que l'amour provient du bien. Alors il y a là ce passage très important au point de vue philosophique entre l'être et le bien. Vous voyez, l'amour est entelekeia. Le bien qui existe est energeia. Il est acte. C'est le bien qui existe. Et le bien qui existe attire. Le bien qui existe, c'est l'ami. C'est pas votre amour. Votre amour reste toujours intentionnel. Il n'est pas substantiel au point de vue philosophique, au point de vue humain. Votre amour n'est pas substantiel. Il tend à être substantiel. Si, par votre amour d'amitié, vous atteignez l'ami. C'est l'ami qui est un mur substantiel, qui est un bien. L'amour comme tel, voyez, demeure immanent. Il est immanent, c'est j'aime, c'est moi qui aime. Et j'aime dans mon amour et par mon amour. Mais mon amour n'est vrai que lorsqu'il est ordonné à l'ami. Le jour où il n'est plus ordonné à l'ami, il se replie sur lui-même et croit qu'il est fin. C'est le bien qui est un transcendantal. Ce n'est pas l'amour. Le bien existe. Le bien est lié à l'être. Le bien demande d'exister. Le bien idéal n'est pas vraiment un bien. Alors, vous voyez, comme ça aussi, c'est très important à bien distinguer. On dit on vit pour un idéal, mais c'est faux. Celui qui vit pour un idéal se casse la tête. Parce qu'un idéal, ça n'existe pas, ça n'existe que dans la pensée. Tandis que le bien, il existe, il est. Et le bien personnel, c'est la personne. C'est l'ami qui existe. Et ça, il est un bien capable de susciter en moi l'amour. Le bien est capable de susciter en moi l'amour. Le bien m'attire. La causalité de la finalité du bien absolu, du bien recherché pour lui-même comme bien, suscite un amour en moi. C'est le propre de la causalité finale, de susciter un amour. Mais cet amour, pour garder son réalisme et ne pas s'idéaliser, parce que très facilement, on passe de l'ami à l'idéal. On considère son ami, on voudrait son ami, ce soit l'ami en soi, qu'il soit absolument parfait, qu'il ait toutes les qualités. Vous voyez, quand on aime, on idéalise. Attention, quand on aime, on idéalise très facilement, par l'imagination. C'est l'imagination qui idéalise. Mais quand on aime vraiment, on n'idéalise pas. On sait ce que on doit demander à l'ami. On sait que l'ami est limité. Il n'est pas le bien total, le bien absolu. Il n'y a que Dieu. Et je ne peux pas encore parler de Dieu au point de vue philosophique. Je le cherche. Mais l'ami est un bien limité. Et le bien doit rester lié à l'être. Le bien ne peut pas se séparer de l'être pour être le bien en soi. Ce serait Platon. On tomberait dans le platonisme. Et très facilement on fait cela. On passe de l'ami au bien en soi. Alors quand vous commencez à regarder dans l'ami l'idéal de l'ami, le bien en soi, vous êtes déçus. Vous avez une fausse vision de l'ami. Et l'ami ne correspond plus à votre imagination. Et vous commencez à le critiquer. Alors que L'ami, quand vous le prenez tel qu'il est, c'est le bien qui attire. On ne le critique pas. Critiquer l'ami, c'est supprimer l'amour. Et c'est vrai, quand de fait, vous critiquez celui que vous aimez, vous le critiquez au nom de quoi ? Au nom d'un idéal que vous êtes forgé, imaginé, et l'ami ne correspond pas à cet idéal. Jamais. Parce que l'ami, c'est un bien limité. Il est comme vous un homme. Il est comme vous un homme. Mais il a en lui des qualités qui vous attirent. Il a en lui cette qualité qui peut être votre fin. Mais il est limité. Et votre amour pour lui ne change pas les limites de votre ami. Votre amour pour lui fait que vous regardez avant tout en lui ce qui est votre bien. Ce qui pour vous peut vous finaliser. Ce qui en lui peut vous finaliser. Et vous savez qu'il est limité. Voyez ? Et ceci, c'est justement la grosse difficulté pour que l'amour d'amitié reste vrai. Ne se laisse pas contaminer par l'imagination. Et il se contamine par l'imagination beaucoup plus facilement que la vérité. Quand vous passez de la vérité à la sincérité, c'est l'imagination qui fait ça. C'est l'imagination qui vous a gonflé d'une manière telle que votre opinion est devenue la vérité. Et qu'à ce moment-là, il n'y a plus que la sincérité. Et si on vous critique, vous dites, mais pas du tout, je suis sincère. Je suis dans la vérité, c'est ça l'essentiel. Donc c'est pas l'essentiel du tout. C'est terrible les gens qui sont toujours sincères. C'est terrible parce qu'ils ne cherchent plus la vérité. Ils sont encombrants. C'est toujours leur sincérité. Et ils peuvent s'empêcher de chercher la vérité et empêcher les autres de chercher la vérité. Parce qu'ils ne la cherchent plus. Ils captent l'attention par leur sincérité. Dans l'amour, il y a le même défaut et qui est beaucoup plus subtil. Parce que comme l'amour par lui-même n'est pas lumineux, très facilement, l'amour que j'ai pour mon ami va m'empêcher d'avoir cette lucidité à l'intérieur de l'amour que j'ai pour mon ami, de voir que c'est l'ami qui est source de cet amour. Je dois dépasser mon amour pour atteindre l'ami. Et cela, si ce n'est pas vraiment voulu, on est très facilement piégé. Et on reste dans l'amour qu'on a pour lui. Parce que ça, on le ressent. Ça, il est dans nous. C'est notre avoir. Vous voyez, l'avoir et l'être. Et l'ami, c'est la source. C'est le bien existant. Tandis que mon amour n'est pas le bien existant. Il est la tendance vers le bien. Il est l'or vers le bien. Il est le poids vers le bien. Il est orienté vers le bien. Mais il n'est pas le bien. Si je m'arrête sur lui, je me coupe du bien. Je m'empêche d'atteindre le bien. Et je veux, par le fait même, faire de mon amour la qualité suprême. Et très facilement, on est piégé. Parce que l'ami, je ne le possède pas, il peut toujours m'échapper. Donc, il exige de moi d'être toujours un mendiant. Il exige de moi d'être toujours celui qui reconnaît qu'il est autre que moi. Et que, parce qu'il est autre que moi et qu'il est mon ami, je suis ordonné à lui. Et on n'aime pas beaucoup d'être ordonné à un autre, d'être tout entier tourné vers l'autre. On aime mieux de se regarder et de se contempler, de considérer que c'est quelque chose qu'on possède. Et on est heureux de posséder cet amour. Et on ne regarde plus l'autre. Tandis que l'ami, il est le bien existant. Alors vous voyez, l'amour, je parle de l'homme. Je parle au point de vue philosophique. L'amour est entelecheia. Il n'est jamais la fin. Quand on dit « Ah, ma fin, c'est d'aimer », ah, attention, faites attention. Comprenez, c'est celui que vous aimez qui est votre fin. Et c'est vers lui que vous êtes tourné. Vous voyez, c'est là où il y a tous les défauts d'une pseudo-mystique. À la place d'aimer vraiment Dieu, on s'aime. Et on est heureux de s'aimer. C'est l'imagination. La limpidité de l'amour fait que nécessairement, on est pauvre. Quand on aime, on est pauvre puisqu'on est tout entier tourné vers l'autre. En même temps, l'amour est la plus grande richesse, c'est vrai, c'est l'avoir le plus parfait. La richesse, la vérité, je veux dire, est une richesse plus profonde, plus radicale, mais pas ultime. L'amour est un bien ultime, une richesse ultime, un avoir ultime. Mais il faut que cet amour soit vrai. Et pour être vrai, il me rend pauvre. Parce qu'il fait que je suis tout entier tendu vers l'ami. C'est l'ami que je regarde en premier lieu. Et plus moi. Dans la véritable amitié, c'est comme ça que ça se passe. L'ami prend plus de place dans mon psychisme que moi-même. C'est à l'égard de l'ami que je m'inquiète. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que ça va tout? Moi? je m'en inquiète plus de moi. C'est lui que je m'intéresse. Vous voyez, c'est important de voir que l'amour qui est l'entelekeia dans l'amour d'amitié, l'amour que j'ai pour mon ami, c'est l'entelekeia le plus parfait que je peux expérimenter intérieurement. C'est une expérience intérieure. Et cet amour le plus parfait que je peux expérimenter intérieurement, c'est celui qui me donne le vrai sens de la pauvreté. D'être tout entier tourné vers l'autre. Et c'est là qu'on voit le véritable amour. Vous voyez, la passion ne fait pas ça du tout. La passion, c'est uniquement une richesse. On s'exalte. Et l'homme passionné s'exalte toujours. Il raconte ses hauts faits. Il raconte ses conquêtes. Il raconte ses séductions. C'est lui, et c'est toujours lui. Parce que c'est la passion. Et il n'y a pas, justement, cette pauvreté qui creuse et qui permet de regarder l'autre. Et alors, c'est là où on voit le mieux, philosophiquement, le mieux, le lien entre entelekeia et energeia. C'est même extraordinaire de voir comment l'amour que j'ai pour mon ami, quand il est vrai, me fait sortir de moi. Et en sortant de moi, il m'appauvrit. Il me fait aimer l'autre. L'ami, lorsqu'il est fin, lorsqu'il est télos, la fin de son ami, il l'attire. Et il sait, il a conscience de cela. Il a conscience d'être pour son ami fin. Et c'est ça qui lui donne le sens de sa responsabilité. Parce qu'il sait que le moindre petit mouvement qu'il a, la moindre petite réaction, se répercutera sur l'ami. Et si il ne respecte pas son ami qui est tourné vers lui, orienté vers lui, il peut arriver à lui faire très mal. C'est parce qu'il est la fin de son ami qu'il est responsable. Et il est responsable dans la mesure même où il joue ce rôle de cause finale. C'est-à-dire de susciter en lui un amour. Et il en est conscient. Il doit en être conscient. Puisque l'amour, puisque l'amitié est réciproque. Vous pouvez très bien attirer des quantités de gens sans le savoir. Il n'y a pas d'amitié. C'est un phénomène particulier qui attire les gens. Très bien. Vous ne savez pas. Tant pis. Ça n'a pas d'importance. Ce sont ceux qui sont attirés qui doivent être conscients de cela. Mais on n'est pas conscient. Dans l'amour d'amitié, il y a réciprocité. Et la réciprocité consiste justement à être conscient qu'on est amis. Et être conscient qu'on est amis, c'est être conscient d'être le bien, l'énergie, d'être l'acte pour l'ami, donc de l'attirer. Alors, par love, vous comprenez bien ce qu'est la causalité finale. Vous attirez quelqu'un. Vous avez capté son cœur, sa volonté. Et vous en êtes responsable. Et vous l'acceptez. Puisque c'est réciproque. Vous acceptez de jouer ce rôle qui n'est pas du tout un jeu, hein, mais vous acceptez d'être fin. C'est lourde responsabilité d'accepter d'être fin. On comprend très bien qu'il y a des gens qui ne veulent plus, qui ne veulent pas du tout ça. Non, non, je ne veux pas, j'accepte pas d'être fin. Vous voyez, la fausse humilité consisterait à dire non, je ne veux pas. La véritable humilité consiste d'accepter d'être fin, momentanée, particulière, mais d'être source d'amour. Vous l'acceptez. Et en l'acceptant, vous devez faire attention que l'ami ne soit pas déçu, puisque vous êtes responsable de lui. Vous devez comprendre que être fin de l'ami, c'est attirer non seulement son attention, mais attirer son cœur. Et permettre à l'amour de l'ami de vous atteindre en tant que vous êtes pour lui un bien. Votre personne est son bien. Votre personne l'attire. C'est très beau parce que ça donne la conscience de la finalité, ça. Et à ce point de vue-là, c'est très grand. Parce que vous atteignez là la conscience de l'acte. Pas uniquement de l'intellect, mais de l'acte. Vous avez conscience de l'acte. Mais ça vous échappe toujours. Hein. C'est plus grand que vous. C'est ça qui est très curieux. D'accepter d'être fin, vous acceptez quelque chose qui vous échappe. Parce que vous n'êtes pas à vous-même fin. Si vous étiez à vous-même fin de votre être, vous auriez pleine conscience de ça. Mais c'est faux, vous ne l'êtes pas. Vous l'êtes pour un autre. Cette chose très curieuse qui est dans l'amitié, c'est que je peux être fin partiel, être fin véritable de mon ami. Mais je ne le suis jamais pour moi. Alors, il y a peut-être là une petite tentation, et même peut-être la grande tentation, Est-ce qu'elle n'est pas là, la grande tentation ? Puisque je suis fin de mon ami, et que mon ami est un autre moi-même, je suis fin pour moi-même. Et je me retourne sur moi-même en considérant que c'est merveilleux d'être la fin de mon ami. Il pense toujours à moi. Vous voyez ? Très facilement, on tomberait dans une espèce d'idolâtrie. Si l'ami se considère lui-même comme sa propre fin, donc comme l'absolu. Si il voit qu'il est fin pour son ami, mais pas pour lui, il se pose tout de suite le problème : quelle est la fin pour moi ? Alors c'est là où je vois comment l'amitié peut être un moyen merveilleux de découvrir l'existence de l'autre, c'est-à-dire de Dieu. Et ça, il faut le voir. Nous le verrons dans justement, dans la manière dont nous devons découvrir l'existence de Dieu. On n'a peut-être pas assez découvert cette voie royale que saint Augustin avait découvert, que, en raison de l'objectivité des preuves de l'existence de Dieu, on a voilé, et qu'il faut peut-être, à notre époque, où le point de vue de l'objectivité dans la subjectivité est mis en pleine lumière avec la phénoménologie, redécouvrir cette voie la plus royale, la plus immédiate, découvrir l'existence de Dieu par le point de vue de l'amitié. Vous voyez, on est là sur une crête au plan philosophique et en même temps anthropologique. Le sommet de l'anthropologie, c'est bien l'amour d'amitié. Et ce sommet de l'anthropologie ne peut pas philosophiquement se suffire. Puisque je suis fin d'un autre et pas fin de moi-même.